Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Quick Save. Je suis Reinhardt et ensemble nous allons parler de Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, ainsi que de Pokémon Quest qui ont été révélés par la Pokémon Company, de Fallout 76 qui a été dévoilé par Bethesda, d'Assassin's Creed Odyssey qui a leaké et qui a été par la suite annoncé par Ubisoft, de PUBG Corp qui met Epic Games en justice, de City Skyline Educative Edition, comme quoi le jeu vidéo peut être éducatif, et de Star Citizen qui dévoile un nouveau pack de contenu à un prix juste exorbitant. C'est parti! Et donc attaquons tout de suite avec ce qui aurait été une des grosses annonces de la semaine, à savoir qu'on en avait parlé il y a deux épisodes de ça, les rumeurs couraient fortement autour. Il s'agit évidemment de l'annonce de Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli qui ont été dévoilés officiellement par la Pokémon Company. Avec un petit teaser, trailer plutôt, qui nous en a montré un peu plus sur ce que serait le jeu et sur les possibilités qu'il offrera. Il s'agira donc d'un épisode prenant place dans la première génération, même si ce sera pas vraiment un remake ni de Pokémon jaune, ni de Pokémon bleu, ni de Pokémon rouge. On retourne tout de même à Kanto. Pour le coup, de grosses similarités avec Pokémon Go, ça c'était attendu, ne serait-ce que par le titre, forcément qui faisait rappel. Mais bon, il s'agira quand même d'un RPG vraiment à proprement dit sur Switch, mais pas un RPG de la série principale. Hein. Ils ont la Pokémon Company a bien fait le distinguo entre les deux. Mais il y aura la possibilité de jouer avec un seul Joy-Con pardon, de la Nintendo Switch. Et on pourra d'ailleurs être rejoint aussi par une deuxième personne qui prendra contrôle du deuxième Joy-Con pour pouvoir jouer à deux sur ce Pokémon Let's Go Evoli ou Let's Go Pikachu. En soi, épisode assez particulier, je trouve, du fait par exemple qu'il n'y a plus de combat sauvage, de combat aléatoire dans les hautes herbes. Là pour le coup, les Pokémon qui vont se balader dans les hautes herbes seront visibles. Déjà, contrairement aux épisodes classiques où vous rentriez dans les hautes herbes et c'était au petit bonheur la chance pour tomber sur le Pokémon qui vous intéressait. Là, vous allez pouvoir voir directement le Pokémon dans les hautes herbes et vous diriger vers lui pour essayer de le capturer. Mais captures qui ne se passeront plus par un combat au tour par tour, c'est le cas dans les épisodes classiques de Pokémon, mais avec un système de capture plus proche, si c'est pas, pour ne pas dire quasiment identique, à ce qui se fait sur Pokémon Go justement, donc savoir se lancer de Pokéball avec des appâts, tout ça. Donc bon, un peu particulier de ce côté-là, il y aura quand même des combats contre des dresseurs, a priori, hein, de ce qu'on en voit dans le trailer, avec les capacités de nos Pokémon qu'on pourra utiliser des combats tour par tour, pour le coup, voilà, plus classique. Mais pour le coup, qu'est-ce qu'il en sera des stats des Pokémon, de leur niveau, tout ça, on sait pas bien encore comment ça va être géré. Si on peut pas les entraîner pendant des combats contre des Pokémon sauvages, faut voir comment ils vont avoir bidouillé la chose pour l'évolution de nos Pokémon et de leur niveau, de leur puissance. Il sera possible aussi de récupérer des Pokémon de première génération capturés dans Pokémon Go et de les transférer vers ces épisodes Switch. Pareil, du coup, est-ce que ce sera les points de les CP, les points de capacité, un truc comme ça, je sais plus, de Pokémon Go, est-ce qu'il sera, enfin, est-ce que ces points seront transférés, enfin, transformés en équivalent en niveau vers ces épisodes Switch? Pareil, là-dessus, on n'a pas encore exactement les détails de comment ça va s'organiser, mais voilà, il sera possible de faire ces transferts déjà, ça peut être une chose assez sympa. Les starters qu'on aura, donc à savoir justement Pikachu ou Evoli, qui seront en fonction de la version que l'on se procurera, pourront pas évoluer, malheureusement. Ils resteront à nos côtés, ils se baladeront à nos côtés, les starters en soi pourront pas évoluer. Par contre, si vous recapturez un Pikachu ou un Evoli après dans la suite de votre aventure, ceux-là pourront évoluer. Sachant que pour évoluer, entre autres, dans ces évolutions, ça comprend uniquement les évolutions de la première génération. Donc à savoir Aqualie, Voltali et Pyroli. Pas de Noctali, de Mantali, de Philali ou de trucs comme ça pour le moment. C'est pas annoncé en tout cas qui est de l'implémentation de futures, enfin de d'autres générations dans ce Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli. Ils auront pour les plus gros Pokémon que vous pourrez capturer, vous aurez la possibilité de les utiliser comme monture, comme on peut faire dans les derniers épisodes de Pokémon, les épisodes principaux de la série. Bon, bien sûr, toujours à condition que les Pokémon soient assez gros, hein, vous n'allez pas monter sur le dos de votre petit Evoli ou un truc comme ça, mais si vous capturez un Tauros ou quelque chose de ce gabarit-là, je pense que vous pourrez vous balader sur son dos pour explorer Kanto comme jamais, en fait, hein. En parallèle de la sortie du jeu, ils sortent aussi une espèce de manette spéciale qui pourra remplacer un Joy-Con sur la Switch, qui s'appelle le Pokéball Plus, donc c'est une manette en forme de Pokéball, avec un espèce de stick dessus, des boutons, tout ça. Donc vous pourrez vous en servir complètement comme le Joy-Con pour pouvoir jouer sur Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. À la particularité, comparé à un Joy-Con classique, que vous pourrez vous en servir pour amener des Pokémon que vous aurez capturés avec vous dans la vraie vie, quand vous baladez, quand vous sortez en ville, tout ça. Vous pourrez l'embarquer avec vous pour, je suppose, pouvoir un peu l'entraîner ou un truc comme ça. Ça n'a pas été précisé exactement qu'est-ce qui sera possible de faire en détail. Enfin, qu'est-ce que ça apportera d'emmener un de ces Pokémon comme ça avec soi. Mais ils avaient déjà fait un système similaire il y a de nombreuses années de ça. Je sais plus c'était pour quel épisode. Je sais pas si c'était pas pour Or et Argent ou un truc comme ça à l'époque. Où il y avait une espèce de mini Tamagotchi, là, pareil, qu'on pouvait embarquer avec soi, il me semble. Je suis plus sûr, une information toute approximative, vous me corrigerez si besoin, mais voilà, il me semble qu'ils avaient déjà fait quelque chose de un peu de ce goût-là, de pouvoir emmener un de ces Pokémon comme ça. Toujours est-il que voilà, bon, pouvoir emmener son Pokémon, ça pourra être cool et ça pourra permettre de bénéficier de certaines récompenses, en tout cas, même si le détail des récompenses en question n'a pas été fait. Voilà, ça apportera des choses d'amener son Pokémon. À côté, enfin, la Pokémon Company a quand même tenu à préciser qu'il s'agit pas là d'épisodes canoniques de la série, hein, c'est pas des épisodes principaux. Un épisode principal, il en arrivera, enfin, certainement deux, hein, parce qu'ils arrivent souvent par deux. Ils arriveront fin 2019. Il y aura voilà de vrais nouveaux épisodes Pokémon qui arriveront. Donc, en attendant, c'est un peu pour faire patienter essayer de ranimer un peu la flamme de Pokémon Go, je pense, avec l'arrivée de l'été. Je pense que c'est le bon moment pour lancer quelque chose comme ça, le temps que tout le monde se le procure, que tout le monde se mette un peu dessus. Les beaux jours vont arriver, et avec la parentalité qu'il y a entre ce Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli et Pokémon Go, je pense que ça peut aider à essayer de relancer un peu L'attrait des joueurs sur Pokémon Go qui s'est beaucoup calmé quand même depuis l'été dernier, du fait entre autres l'hiver étant passé entre deux, les gens sont beaucoup moins motivés à aller se balader chasser du Pokémon avec un froid de canard. Un froid de canard Tichot, j'oserais même dire. Bon, ouais, bon, je suis pas sûr de celle-là. Mais du coup, voilà, ils vont essayer de relancer ça, je pense. Et ça peut être qu'une bonne chose pour la série, hein, de toujours garder de l'attrait sur la série Pokémon, pour la Pokémon Company, c'est leur but. En attendant, justement, ces épisodes de Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli qui arriveront au mois de novembre, il y a sur Switch dans un premier temps et sur iOS et Android courant juin, tout autre épisode, un tout autre style de jeu Pokémon qui est arrivé, à savoir Pokémon Quest, qui est en free to play, donc dispo dès maintenant sur Switch, et qui voilà, arrivera courant juin sur téléphone. C'est pour le coup assez particulier pour ceux qui ont déjà joué au mode Minecraft Pixelmon. Ça pourra vous rappeler des choses un peu dans le style, vu qu'il s'agit de Pokémon en version toute cubique, toute carrée, qui se déroulera dans un monde qui s'appelle 3D, mais 3D comme 3D de jeu, des dés à lancer. On contrôlera une équipe de 3 Pokémon, où on contrôlera les Pokémon directement, hein, on n'est pas un dresseur qui a plus ses Pokémon, on contrôle directement les Pokémon. De ce que j'en ai compris, apparemment, ça sera un jeu qui prendra place sous la forme d'un hub central qui sera votre petit camp de base, et on pourra envoyer notre équipe de 3 Pokémon combattre dans différentes zones de ce monde de 3D. Les Pokémon se baladeront librement, enfin automatiquement en tout cas, dans ces zones, pour aller à la rencontre justement des Pokémon sauvages, pour aller les combattre. Et niveau de notre contrôle à nous là-dessus, vu qu'on gère pas leurs déplacements, on gérera leur technique de combat pour justement réussir à gagner les combats contre ces Pokémon sauvages. Combats dans lesquels on gagnera des trésors et des gemmes P pour améliorer nos Pokémon et notre base. Base dans laquelle on pourra rajouter de la décoration et on pourra aussi préparer des petits plats Pokémon. Pour que l'odeur de ces petits plats attire d'autres Pokémon à notre camp pour qu'ils nous rejoignent dans notre équipe pour qu'on puisse aller à leur tour combattre avec. Il y aura des microtransactions de présentes, enfin il y a déjà, hein, vu qu'il est déjà disponible sur Switch, il y a des microtransactions de présentes dans le jeu. A priori, de ce que j'en ai entreaperçu, rien de fondamentalement nécessaire. Plus de l'esthétique et de l'assouplissement des règles de free to play. Voilà, petite microtransaction de présente, c'est logique, hein, c'est du free to play. Toujours est-il que même s'il sort un peu de nulle part, ce Pokémon Quest, on en avait entendu parler nulle part, il a l'air d'être relativement bien accueilli, vu qu'en à peine 48 heures, pardon, il a dépassé 1 million d'exemplaires téléchargés sur le store de la Switch, alors que les versions mobiles sont même pas encore disponibles. Donc, on va voir ce que ça va donner quand il va débarquer sur iOS et Android, mais ça risque de faire un bon gros raz-de-marée encore Pokémon Go-esque. Disons ça comme ça. J'aurais dit que voilà, ça a l'air d'être très très bien accueilli. Donc voilà, à voir. Bethesda sont vraiment les rois du teasing. Après avoir gentiment dévoilé Rage 2 il y a quelques jours de ça, on pensait que ils resteraient tranquilles jusqu'à l'E3 pour garder des cartouches pour leur présentation et leur conférence. Et en l'occurrence, bah, il n'en est rien, vu qu'ils se sont mis, après le teasing de Rage 2, ils se sont mis à faire du teasing sur quelque chose de relatif à Fallout, avec un petit tweet avec le fameux logo Please Stand By bien connu de la série. Tweet qui s'en est suivi après d'une suite de teasing sur Twitch avec toujours ce même logo sur une télé et un petit Vault Boy, le petit personnage de Fallout, posé devant l'écran pendant des heures sur un stream interminable de teasing, qui s'est conclu par un petit trailer d'annonce pour un futur épisode dans la saga Fallout. À savoir Fallout 76, donc pas un Fallout 5, hein, c'est pas un épisode majeur a priori, mais plus un épisode un peu plus mineur comme aurait pu, enfin comme l'a été entre guillemets un Fallout New Vegas. Pour l'instant, on n'en sait pas encore beaucoup sur le jeu et on en saura certainement plus le 11 juin à la conférence Bethesda. Mais des rumeurs disent qu'a priori ça pourrait être un jeu de survie en ligne. A priori, il prendrait place 25 ans après la catastrophe nucléaire qui a eu lieu dans Fallout. Donc à la différence de Fallout 3 et Fallout 4 qui prennent place 200 ans après la catastrophe. Là, on est seulement 25 ans après, donc du coup, on devrait avoir un monde beaucoup plus dévasté, beaucoup plus en ruine et moins reconstruit que ce qui a pu être vu justement dans Fallout 3 et Fallout 4. Donc ce jeu qui, selon les rumeurs, pourrait être en ligne, pourrait... Donc ça pourrait être de la survie en ligne, un peu à la DayZ ou à la Rust, avec des éléments de reconstruction, enfin de construction de base, comme on a vu dans Fallout 4. Adapté au multijoueur justement et donc pour permettre aux joueurs de reconstruire justement ce monde dévasté de leurs propres mains. Ça peut être assez sympa, ça peut changer un peu. Ça va être pareil comme toujours, hein, ça va être à voir un peu plus en détail pendant l'E3, mais ça augure en tout cas de choses assez sympathiques. Et si Bethesda sont les rois du teasing, Ubisoft sont les rois de la fuite. Parce que depuis quelques années, il se passe pas un E3 sans qu'il y ait des fuites sur ce qu'ils doivent annoncer, qui pointent le bout de leur nez quelques semaines, quelques jours avant leur conférence. Et en l'occurrence, cette année, ben, c'est Assassin's Creed, le nouvel épisode d'Assassin's Creed, pardon, qui pointe le bout de son nez un peu avant la conférence. Pas certain qu'ils avaient prévu d'en parler aussitôt, mais il y a eu un petit leak sur un produit dérivé du futur opus d'Assassin's Creed qui a été dévoilé. C'est un porte-clés avec un casque hoplite, donc un casque de guerrier grec de l'Antiquité. Et avec le titre de l'épisode, donc il s'agira en l'occurrence d'Assassin's Creed Odyssey. Les rumeurs dessus vont bon train depuis ce petit leak, et avant que les rumeurs prennent trop d'ampleur, Ubisoft, via leur compte Twitter, ont décidé d'annoncer officiellement le jeu. Sur un très court tweet qui se résume juste à une toute petite vidéo de quelques secondes où on voit un guerrier Sparte donner un grand coup de pied dans un autre guerrier pour le faire tomber d'une falaise. Gros clin d'œil au film 300, hein, sans aucun doute. Il manquerait plus qu'un gros This is Sparta! Et on y est. Cette petite confirmation en fait se résume juste à ça. Il y a un petit on se revoit à l'E3, donc c'est manière de calmer un peu les foules et de les faire patienter jusqu'à l'E3, juste en confirmant bon ok oui effectivement on a un nouveau Assassin's Creed qui arrive. Suite à cette confirmation sur 4chan, apparemment il y a eu des infos qui auraient leaké, alors c'est à prendre avec des pincettes, hein. Mais ça confirme certaines choses justement par rapport à ce qui a été révélé est leaké sur le fait justement que voilà, ce Assassin's Creed Odyssey se déroulera bien en Grèce, a priori à l'époque de la dynastie des Flaviens. Alors je suis pas expert en histoire de la Grèce antique, donc personnellement ça me parle pas trop. Mais voilà, on sera en Grèce antique, en tout cas. Il y aura a priori la possibilité de pouvoir jouer deux personnages, un homme ou une femme, qu'il faudra choisir au début de la partie, qui disposeront chacun d'une histoire de skill et d'une vision d'aigle différente. Et a priori, une fois qu'on aura fait notre choix, il sera pas possible de changer après. Alors après, est-ce qu'on pourra recommencer une autre partie avec l'autre protagoniste? J'espère, vu que ils nous ont déjà fait le coup chez Ubisoft d'avoir des jeux qu'on puisse pas forcément recommencer. Je pense à l'époque à The Crew par exemple, qui est pas possible de recommencer sans recréer un nouveau compte et donc racheter un nouveau jeu. A priori, le combat naval sera de retour, ce qui pourrait expliquer le report justement chez Ubisoft aussi de Skull and Bones. Vu que Skull and Bones est développé par Ubisoft Singapour, qui avait développé la partie navale d'Assassin's Creed Black Flag. Si le combat naval est de retour dans cet épisode-là, il y a fort à parier que ça soit aussi Ubisoft Singapour qui s'occupe de cette partie-là, ce qui pourrait expliquer le retard pris sur Skull and Bones et du coup le report, comme on l'a vu dernièrement, de ce jeu-là. A priori, ils vont aussi récupérer le système de customisation d'Assassin's Creed Unity, qu'ils ont l'intention de, voilà, de reconduire et d'améliorer. J'ai pas fait cet épisode-là, donc je sais pas exactement de quoi il en retourne, mais dans la foulée de ces petits leaks, infos, voilà, on sait pas trop, qui sont à prendre avec des pincettes, qui ont été trouvés sur 4chan. Je trouve étonnant quand même le fait que il y a apparemment le retour de beaucoup de choses d'anciens épisodes qui n'étaient pas forcément présents dans Assassin's Creed, pardon, Origins. Alors que Origins avait été bien accueilli, que ce soit par la critique ou par le public. C'est étonnant qu'ils fassent un peu machine arrière pour aller récupérer plein de mécaniques qu'ils avaient enlevées, à voir s'ils arrivent à les réinstaurer efficacement. Dans ces mécaniques qui réinstaurent, a priori, enfin, qui devraient être réinstaurées, il y aurait le retour de la possibilité de se cacher dans la foule, le retour du système de confrérie, le retour du système de rénovation, le système de crafting qui devrait être amélioré, le retour des bombes fumigènes, le retour de la roue des armes. Donc ça fait le retour de beaucoup de mécaniques. Voilà, ça va être à voir. Il sera aussi possible, a priori, de combattre des créatures mythologiques. De souvenir, c'est pas trop dans les habitudes d'Assassin's Creed, les trucs mythologiques. Mais oui, dans l'épisode Origins, il me semble qu'il y en avait quelques-uns. Pareil, c'est un épisode que j'ai pas fait, j'ai un peu lâché la série depuis un bout de temps. Ça va être à voir, ça peut être assez cool. Surtout que niveau Grèce antique, tout ça, niveau créatures mythologiques, il y a de quoi faire. A priori, il y aurait aussi des systèmes de tombeaux, justement, de l'épisode d'Origine, qui serait un mélange d'escalade et d'exploration. Ça, c'est toujours assez cool, ces systèmes de mini-donjons, de tombeaux qui mélangent, qui induisent pas forcément que du combat et un côté un peu plus plateforme et énigme en général aussi, qui je trouve assez cool dans la série des Assassin's Creed. A priori de ce qu'ils disent sur 4chan, la sortie de cet épisode Odyssey serait prévue pour la fin de l'année 2018. C'est pas improbable en l'occurrence, hein, vu que les produits dérivés ont déjà été créés et distribués a priori. Cet épisode devrait arriver assez vite. On en saura plus pendant la conférence Ubisoft, hein, comme toujours pendant cette période pré-E3. toutes les infos, toutes les rumeurs vont se confirmer ou s'infirmer justement pendant les conférences et pendant la semaine de l'E3. Et continuons donc avec des news un peu plus rapides, un peu plus synthétiques. Electronic Arts et Anthem, on en saura un peu plus. C'est via leur compte Twitter respectif, donc le compte Twitter d'EA, enfin d'EA France, et le compte de Anthem. Qui nous ont fait un petit bout de teaser, toujours pré-E3, pré-EA Play, juste en gros pour nous dire que voilà, Anthem sera là pour l'EA Play, rendez-vous le 9 juin. Donc voilà, pour tous ceux qui attendent le titre, c'est toujours sympa de savoir qu'il y sera. Après, bon, ça peut gâcher un petit peu l'effet de surprise. Mais bon, voilà, Anthem à l'E3, il y sera. Passons maintenant du côté de PUBG et Epic Games. Il y a PUBG Corp, en fait, a tenté une attaque en justice en Corée du Sud envers Epic Games. C'est un peu je t'aime moi non plus la relation entre les deux. Vu que PUBG est arrivé avant Fortnite, hein, qui est développé par Epic Games. Mais PUBG bénéficie du moteur Unreal Engine, qui est développé par Epic Games. Donc, du coup, PUBG Corp pensait avoir un soutien technique de la part d'Epic, et donc ont partagé beaucoup de choses par rapport à leur jeu dans le but de pouvoir l'améliorer. Avec le moteur. Et par la suite, Epic en a profité, entre guillemets, pour faire revivre Fortnite, qui était déjà sorti depuis un moment, mais qui était très axé PvE jusque-là, pour y inclure un mode Battle Royale, au succès qu'on lui connaît, et qui est en train de petit à petit de grignoter sur tous les terrains PUBG. Et du coup, la partie directoriale de PUBG Corp s'inquiète un peu de tout ça et essaye de se défendre un peu comme ils peuvent. Et donc, on a tenté une attaque en justice envers Epic pour violation des droits d'auteur et du copyright. Moi, ce que je trouve un peu hallucinant, c'est que voilà, en gros, PUBG Corp râle que Epic a piqué le style Battle Royale pour Fortnite, sauf que PUBG Corp est absolument pas le créateur du Battle Royale. Avant ça, on a eu H1Z1 qui faisait du Battle Royale aussi. Avant H1Z1, pardon, on retrouvait, d'ailleurs c'est de là que vient H1Z1 aussi, un mode Battle Royale sur Arma 3, et avant ça même, je crois, sur Arma 2. Donc voilà, ils sont absolument pas créateurs du genre, et ils viennent râler parce que y en a qui arrivent à les dépasser et y est en train de leur grignoter le marché. Donc c'est un peu ironique d'aller râler sur les autres alors qu'on est soi-même copieur d'un style, râler que les autres vous copient alors que vous copiez vous-même, c'est un peu ironique. Chose ironique aussi, c'est que c'est vraiment la partie, la tête, les PDG, tout ça qui vont râler là-dessus. Parce qu'en soi, pour ce qui est par exemple enfin, les PDG de PUBG Corp qui râlent surtout là-dessus. Parce que le PDG d'Epic, en soi, a annoncé que pour lui, il pouvait très bien survivre tous les deux conjointement, à la fois PUBG et à la fois Fortnite. Que c'est pas parce que les deux sont présents sur le terrain vidéoludique que forcément faut qu'il y ait un mort et qu'il n'y ait qu'un seul représentant du mode Battle Royale. Et le directeur créatif et créateur de PUBG, celui qui est à la base connu sous le pseudo de PlayerUnknown, a fait une déclaration plus ou moins similaire, comme quoi, voilà, le fait que Fortnite soit ce qu'il est et réussisse comme il réussit, n'était pas forcément une mauvaise chose en soi. Mais voilà, le fait est que voilà, l'attaque en justice est quand même là. Et donc, voilà, ça se tire dans les pattes, c'est la guéguerre entre les deux, deux jeux où on se tire dessus, mais ils se tirent aussi dessus entre eux, quoi. Voilà, c'est un peu ironique. City Skyline, City Builder connu et reconnu pour ses qualités, développé par Paradox, va se doter d'une version éducative. Paradox a signé un partenariat avec la société Teacher Gaming, qui est spécialisée justement dans le fait de mettre des leçons de choses concrètes illustrées par le jeu vidéo. Ils vont justement, de par ce partenariat et de par cette version particulière de City Skyline, proposer des cours sur la politique locale, sur la gestion économique de ville, ou ce genre de choses-là. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai, hein, Teacher Gaming. Ils proposaient déjà d'apprendre la physique avec Kerbal Space Program, la biologie avec Reach for the Sun, ou encore la politique justement avec Démocratie 3. Donc ils n'en sont pas à leur coup d'essai de rendre un jeu vidéo pas plus sérieux, mais plus l'accès sur un côté éducatif. Du coup, voilà, ils se mettent à ça avec City Skyline. Bien sûr, c'est pas gratuit pour les écoles qui voudront justement bénéficier de ce City Skyline Educative Edition. Il en coûtera un abonnement de $150 par an. Donc bon, en soi, c'est pas excessif, excessif non plus, hein, $150 par an, pas par mois, hein, donc bon, c'est pas excessif pour un établissement, et ça peut amener une version assez originale de la façon d'aborder des cours en passant par le jeu vidéo. Preuve en est que le jeu vidéo n'est pas forcément quelque chose d'abrutissant et qui rend violent, tout ça, comme on l'entend dans les grands médias généralistes. On peut faire beaucoup de choses avec le jeu vidéo et ça peut avoir beaucoup de portée. S'il y a un jeu que certainement beaucoup ont oublié depuis le temps, c'est Wreckfest, ou Wreckfest. Je vous avouerai que je ne sais pas bien comment le prononcer. Anciennement nommé Next Car Game, c'est développé par Bugbear, les anciens qui ont développé Flatout, toute la série de jeux Flatout. Alors pour ceux qui connaîtraient pas forcément les Flatout à l'époque, il s'agissait de jeux de course façon Destruction Derby, où on fait fi de la politesse et d'éviter de s'accrocher. Là, au contraire, justement, on va aller chercher à balancer les ennemis dans le décor le plus vite possible et le plus violemment possible. Justement, donc, ces développeurs qui avaient fait Flatout sortent un nouveau jeu qui est en accès anticipé depuis 2013, donc ça fait 5 ans qu'il est en accès anticipé, d'où le fait que voilà, beaucoup l'avaient certainement oublié ou pensaient que voilà, le jeu était à moitié abandonné. Et bien que nenni, il n'est pas abandonné du tout et il sortira sur PC le 14 juin 2018 et sur PS4 et Xbox One 6 mois plus tard, le 20 novembre. Donc voilà, il finit par arriver enfin. Je ne sais pas si vous faisiez partie des gens l'attendant. En tout cas, pour ma part, j'avais beaucoup aimé les Flatout à l'époque. J'avais récupéré Next Car Game, enfin anciennement Next Car Game, sur Steam, mais je vous avoue que j'y croyais plus trop non plus. Donc voilà, c'est une petite nouvelle sympathique. En parlant de nouvelles sympathiques, Il y en a une qui est, enfin, sympathique dans le sens où elle fait sourire tellement elle est hallucinante, ahurissante. Il s'agit de Star Citizen, pareil, dans la catégorie des jeux qui s'annoncent depuis longtemps, mais dont on n'en voit pas le bout du développement. Il se place là, hein, Star Citizen. Et s'il y a bien une chose, par contre, qui réussit très bien, en tout cas, c'est son financement qui, outre le Kickstarter par lequel ils étaient passés, continue à pouvoir recevoir des dons directement sur leur site. Ils en sont à plus de 186 millions de dollars collectés au jour d'aujourd'hui par plus de 2 millions de personnes, ce qui fait quand même une moyenne de 91 dollars par personne, ce qui est pas rien. Et bah, comme si ça leur suffisait pas, ils ont proposé un nouveau pack de vaisseaux, parce que les dons qui peuvent se faire sur le site de Cloud Imperium Games se fait via l'achat en fait de vaisseaux pour le jeu. Et outre les premiers packs qui commencent à 54 dollars, ce qui est déjà pas rien, ils viennent de sortir un tout nouveau pack qui bat les records de l'ancien. Jusqu'à là, le pack le plus cher, c'était le pack completionniste qui était proposé à 15 000 dollars, ce qui est déjà massif. Il propose du coup maintenant un tout nouveau pack qui est bon déjà pas accessible à tout le monde parce qu'il faut déjà avoir dépensé un minimum de 1 000 dollars sur le site du jeu, avoir fait 1 000 dollars de dons entre guillemets en achat de vaisseau pour accéder à cette offre. Et l'offre en question se nomme le Legatus Pack et il en coûtera 27 000 dollars, soit à peu près 29 000 euros pour l'acquérir, donc on dépasse de plus de 10 000 dollars le pack précédent. Et pour ce tarif, vous aurez accès à 117 vaisseaux ainsi que 163 extras. Alors dans les extras, ils comptent monnaie virtuelle, des hangars, des parcelles de terrain, des modules, des éléments de personnalisation et compagnie. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses. Pour le prix, heureusement qu'il y aura beaucoup de choses. Mais 27 000 dollars, quoi. C'est juste fou, quoi. Je vois difficilement comment quelqu'un peut mettre autant de sous dans un jeu, à moins d'être investisseur. Mais pour un joueur lambda, c'est, enfin, faire un crédit pour un jeu. Alors, sachant que en plus, tout ce contenu auquel ce Legatus Pack donne accès, sera accessible dans le jeu après avec la monnaie in-game. Donc il n'y aura pas besoin de dépenser 27 000 dollars pour l'acquérir, tout ce contenu. Donc je trouve ça assez hallucinant, quoi. C'est les grandes dérives de Chris Roberts, la folie des grandeurs de Chris Roberts. Je vois pas trop l'intérêt d'un pack aussi cher. Mais bon, on verra de quoi Star Citizen sera fait le jour où il sortira. En attendant, on aura peut-être des cheveux blancs d'ici là, mais bon. Et je vous remercie de m'avoir suivi pour ce quatrième épisode de Quick Save. Si vous avez des commentaires, des remarques, tout ça sur l'épisode, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous l'épisode sur le site ou sur Twitter, Facebook, SoundCloud, iTunes. Vous retrouverez le podcast sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas non plus à partager le podcast autour de vous, à en parler, ça ne fait que m'aider dans ma démarche pour aider à faire enfin, à faire connaître le podcast. Pour ma part, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne partie. Ciao!